Vous êtes bien à l'écoute de RFI, il est 16h à Paris, 10h à Washington.
Simon Bourtembourg.
À la une de cette édition, l'enjeu du report des voix ce dimanche pour le deuxième tour des élections législatives en France. Les désistements de candidats sont nombreux pour parer le Rassemblement national. Mais les électeurs vont-ils les suivre? Rien n'est moins sûr, nous dira le directeur général adjoint de l'Institut de sondage Opinionway. Réunion de crise autour de Joe Biden à Washington. Le président américain a convoqué aujourd'hui des gouverneurs démocrates. Objectif, répondre aux doutes des cadors de son parti qui s'inquiètent sur son état de santé. Et puis, près d'un million d'habitants affectés et plus de 240 000 personnes évacuées. En Chine, les pluies torrentielles ces derniers jours ont provoqué des inondations impressionnantes, nous le verrons. Difficile de dire à quoi ressemblera l'Assemblée nationale après le vote de ce dimanche. Deuxième tour des législatives en France au programme. Et l'objectif est clair, barrer l'accès au pouvoir à l'extrême droite. C'est un objectif qui semble partagé chez les adversaires du Rassemblement national. La coalition présidentielle et le nouveau Front populaire se sont d'ailleurs entendus dans la majorité des circonscriptions pour que le candidat le moins bien placé se retire en cas de triangulaire avec l'extrême droite. Mais qu'en penseront les électeurs? Vont-ils eux aussi faire barrage au Rassemblement national? Eh bien, peut-être pas toujours, nous explique Frédéric Michaud. Il est directeur général adjoint de l'Institut de sondage Opinionway.
Les électeurs du Front populaire, quand ils seront face au Rassemblement national, voteront très clairement pour leur candidat et majoritairement, ils voteront pour le candidat de la majorité présidentielle quand celui-ci sera opposé au Rassemblement national. Donc, il y a une adhésion au principe du Front républicain. Du côté des électeurs de la majorité présidentielle, c'est un petit peu plus mitigé. Quand un candidat du nouveau Front populaire est opposé à un candidat du Rassemblement national, pour l'instant, on a une majorité d'électeurs de la majorité présidentielle qui ne prennent pas position et qui choisissent soit de s'abstenir, soit de voter blanc ou nul. On a un quart qui voterait pour le nouveau Front populaire. Et il n'y a pas seulement les électeurs de la majorité présidentielle qui sont embêtés par cette stratégie. Il y a aussi ceux des Républicains. Quand ils doivent choisir entre un candidat du nouveau Front populaire ou un candidat du Rassemblement national, la majeure partie d'entre eux, 40%, choisirait elle aussi de s'abstenir. Et puis, on aurait un gros tiers qui voterait pour le Rassemblement national et un quart qui voterait pour le nouveau Front populaire.
À Frédéric Michaud qui était l'invité d'Anne Cantner à la mi-journée sur RFI. Et alors qu'une grande partie de la gauche, le camp présidentiel et certains LR envisagent de former un gouvernement de grande coalition, à la mi-journée, à l'issue du Conseil des ministres, Emmanuel Macron a déclaré que les désistements de la majorité ne signifiaient pas que le camp présidentiel entendait gouverner avec LFI. Insoumis et macronistes semblent ainsi irréconciliables. Il faut dire que tout ou presque les opposent. La question des retraites n'y échappe pas. Tout comme le Rassemblement national, le nouveau Front populaire souhaite revenir sur l'âge légal de fin de carrière fixé par l'exécutif. Camille Salcedo-Ruiz.
Abroger immédiatement la réforme des retraites, c'est ce que promet le nouveau Front populaire. Il souhaite revenir à un âge de départ à 62 ans. L'Alliance de gauche envisage même à terme une retraite à 60 ans. De son côté, le Rassemblement national a changé de position ces derniers jours. Le parti met l'accent sur les carrières longues. Il voudrait que les personnes ayant commencé à travailler avant 20 ans et cotisé 40 annuités puissent partir à 60 ans. Pour les autres travailleurs, l'âge légal de départ à la retraite serait fixé à 62 ans et pourrait aller jusqu'à 66 ans selon l'âge de début de carrière. Le camp présidentiel, quant à lui, maintient le cap de sa réforme passée en force en mars 2023 après des mois de contestation. L'âge de départ à la retraite passerait donc comme prévu de 62 à 64 ans d'ici à 2030. Le taux plein serait garanti à 67 ans. Le seul changement annoncé, ce serait d'augmenter le montant des retraites en l'indexant sur l'inflation.
À précision signée Camille Salcedo-Ruiz. Rishi Sunak reçoit lui le soutien surprise de Boris Johnson pour les législatives. Nous sommes cette fois au Royaume-Uni. Pas de quoi cependant renverser les tendances, alors que le parti travailliste mené par Keir Starmer est en passe de remporter une large victoire. Une page historique pourrait se retourner donc demain au Royaume-Uni. Le centre-gauche devrait en effet infliger une cuisante défaite aux conservateurs au pouvoir depuis 14 ans. Les élections présidentielles en Tunisie se tiendront dans 3 mois, le 6 octobre prochain précisément. Une date a donc été fixée par le chef de l'État, Kais Saied, dont le mandat de 5 ans expire à l'automne. Élu en 2019, le président tunisien s'est accaparé tous les pouvoirs, dont puis son coup de force, c'était en juillet 2021. Je vous le disais en titre, Joe Biden au chevet des gouverneurs démocrates. Réunion au sommet aujourd'hui à Washington à l'invitation du président américain. Le voilà forcé de rassurer son camp après le crash du premier débat face à Donald Trump, c'était la semaine dernière. Le camp démocrate est en effet en ébullition à quelques mois juste de l'élection présidentielle. Les poids lourds du parti commencent même à s'interroger publiquement sur l'état de forme de Joe Biden. Pour la première fois hier, un parlementaire démocrate lui a publiquement demandé de se retirer. Et la Maison-Blanche veut donc à tout prix éviter la contagion. Vincent Souriau.
C'est Karine Jean-Pierre, la porte-parole de Joe Biden, qui le dit. La Maison-Blanche veut tourner la page. Les absences du président pendant le débat, ses phrases sans queue ni tête, ses raisonnements inintelligibles, n'ont rien à voir avec la maladie d'Alzheimer, une quelconque forme de démence ou de sénilité.
Je n'y vois aucun symptôme de maladie, j'y vois ce qu'il s'est passé. La veille du débat, il a eu une mauvaise nuit et par-dessus le marché, il a attrapé froid.
La fatigue aussi, ce n'était pas très malin, avance Joe Biden lui-même, de voyager avant le débat. France, Italie, Californie, trop de déplacements qui l'ont conduit à presque s'endormir sur scène. Oui, mais les mauvaises passes, ça arrive à tout le monde, plaide la présidence, qui met en avant ses très nombreuses sorties médiatiques sans aucun accroc.
Cette année, le président a donné plus de 40 interviews. Je parle d'interviews improvisées. Et il a participé à plus de 500 réunions publiques improvisées. Et ça, on veut continuer à le faire.
La dernière carte de la Maison-Blanche, le terrain. L'équipe de Joe Biden promet qu'il va reprendre son bâton de pèlerin et repartir à la rencontre des Américains afin qu'ils se rendent compte par eux-mêmes de son véritable état de santé.
Vincent Souriau du service international de RFI. Un échange de prisonniers à venir entre talibans et Américains. Des discussions sont en tout cas en cours selon un porte-parole des autorités talibanes. Deux Américains détenus en Afghanistan pourraient ainsi être libérés contre des Afghans emprisonnés dans le centre de détention de Guantanamo. Des bombardements israéliens encore aujourd'hui sur la bande de Gaza. Après avoir annoncé il y a 10 jours que la fin de la phase intense de la guerre était proche, Benjamin Netanyahou assure que cela ne sera possible qu'après la destruction du Hamas et la libération de tous les otages. Depuis, par crainte d'une nouvelle opération d'envergure, des milliers de Palestiniens font route vers le sud de l'enclave. De nouveaux ordres d'évacuation ont en effet été émis lundi par Israël, notamment à Khan Younes et Rafah. Il concernerait là-bas 250 000 personnes selon l'ONU. En Chine, ce sont plus de 240 000 personnes qui ont dû être évacuées de l'est du pays. Des pluies torrentielles ont fait sortir de leur lit plusieurs fleuves. La Chine est en effet frappée depuis plusieurs mois par des conditions météorologiques extrêmes entre vagues de chaleur et pluies torrentielles. Cette fois donc, c'est la pluie qui ne cesse de s'abattre et cela pourrait encore durer jusqu'à au moins vendredi. Correspondance à Pékin de Stéphane Lagarde.
Voilà plusieurs jours que les eaux du fleuve bleu sont devenues jaunes et menacent de déborder dans l'est de la Chine. Les seuils d'alerte ont été notamment dépassés dans l'Anhui, où plus de 100 mm de pluie ont été enregistrés en 24 heures. Au total, 36 comtés et districts de 7 villes de cette province située à l'ouest de Shanghai ont été ravagés par les pluies. 991 000 habitants sont affectés et plus d'un quart d'entre eux ont dû être évacués face à la montée des eaux qui a fait disparaître une partie des routes et des ponts. On s'attend à ce qu'en juillet, d'importantes inondations se produisent dans les cours moyens et inférieurs du fleuve Yangtze et du fleuve Jaune, a déclaré hier Ru Zedan, la directrice adjointe du Centre d'information hydrologique, rappelant qu'en avril, le bassin de la rivière des Perles a connu 6 inondations précoces, dont 2 majeures. Et parmi les images qui ont marqué les esprits ce mercredi sur la télévision centrale de Chine, celle du Yangtze recouvrant quasi entièrement une sculpture de Wuru, ville-préfecture de l'Anhui. L'ouvrage d'art habituellement contemple le fleuve 12 mètres au-dessus des eaux. Stéphane Lagarde, Pékin RFI.
Inondation toujours cette fois au Bangladesh. Là, au total, plus d'1 300 000 personnes ont été touchées par des crues subites après de fortes pluies dans le nord-est du pays. 6 personnes ont trouvé la mort dans ces pluies de la mousson. Et puis, l'ouragan Beryl s'apprête, lui, à toucher la Jamaïque et puis les îles Caïmans. Ce cyclone d'une intensité rare a fait 7 morts dans le sud-est de l'archipel des Caraïbes. Premier ouragan de la saison, il a un temps été classé en catégorie 5, la plus élevée avec des vents supérieurs à 250 km/h. Et pour refermer ce journal, un mot de sport et de cyclisme. Au programme du jour, la 5e étape du Tour de France. Vainqueur en solitaire hier, Tadej Pogacar porte aujourd'hui le maillot jaune. Encore 70 km d'étape aujourd'hui, avec en tête pour l'heure un duo de Français. RFI, il est 16h passé de 10 minutes. Ici à Paris, c'est la fin de ce journal.